Elle se précipite vers la porte. Grandma la suit. Dehors, elle regarde le chemin. Des soldats vêtus d'uniformes vert gris, bottes noires, brillantes, armes menaçantes, ronds et vieilles. Aux soldats qui gardent le portail, Grandma explique. Mon fils, le père de la petite, est prisonnier en Allemagne. Je garde l'enfant. Sa mère est malade. Elle montre l'incendie. La guerre est dure, ajoute-t-elle. Alors, dans un français hésitant, il chuchote. Partez. Partez avec les enfants, tous. Quittez les maisons. Nous allons mettre le feu au village. S'il y a des armes, nous tuons. Nous tuons tout. Partez, partez. Grandma rentre vite. Prévient tante Alice. Elle plie des couvertures, les met dans une valise avec quelques vêtements chauds. Alice habille son petit garçon. Passe-moi quelques provisions, demande Grandma. N'oublie pas les adresses de papa et de maman, ajoute Dunia. Tous quatre enjambent la fenêtre qui donne sur le verger. D'autres, comme eux, se sont précipités vers les champs. Sur la colline qui surplombe le village, le groupe reprend souffle. Dunia préfère fuir, fuir, fuir ces soldats qui risquent de l'interroger, fuir encore. Elle regarde au loin les habitations. Tout semble s'être évanoui. Il n'y a plus trace de drame. Peut-être a-t-elle rêvé. Un silence doux les entoure. Une abeille bourdonne. La chaleur emplie, déborde dans la campagne. Alors l'enfant d'Alice s'ouvre la valise, la renverse. De vieilles chaussures, des sabots usés, des chaussons troués, appartenant au locataire précédent, se répandent sur le sol. Dunia est emportée par un rire incontrôlable. Grandma sourit et hausse les épaules. Alice gifle fortement le gamin pour cette innocente farce. Il les avait vus faire les bagages. Il les avait imités. Abandonnant valise et souliers d'hiver, la mère entraîne l'enfant qui sanglote. Grandma et Dunia suivent. Les deux femmes décident d'attendre le soir à l'orée d'un petit bois. Assise dans l'herbe, Dunia se sent fatiguée, lourde, énorme. Elle pose sa tête sur la jambe de Grandma. Elle a mal au cœur, une anormale pesanteur qui étouffe, qui monte dans la gorge, dans la tête. Elle pense à papa, à maman, à Georges, à tous les secrets qu'elle ne peut dire à personne, les messages, les armes au cimetière. Elle pleure doucement. Puis elle sanglote longtemps. Comme si une mine épuisable de chagrin était enfouie en elle. Grandma la console tendrement, la serre dans ses bras, la berce, elle se sent mieux. La nuit tombe. Grandma propose de se rapprocher du village. Bientôt, elle distingue les toits des maisons telles qu'elles les ont quittées. Plus près, elles entrevoient le mur calciné de la grange. Elles approchent, calme du soir. Une chouette ulule. Elle traverse le verger, enjambe la fenêtre. Grandma et Dunia se précipitent vers la fenêtre qui donne sur le chemin. Les Allemands ont disparu. « Je voudrais aller chez oncle Georges, » dit Dunia. « Je t'accompagne, » répond Grandma. Elle passe devant les murs détruits de la grange. Au sol, un tapis de tisons encore rouge. Une odeur écœurante. La place est vide. Personne dans les rues. Personne. La maison de Georges et de Thérèse est déserte. Un appel. C'est la voix de temps. Tous sont réfugiés dans le grenier situé au-dessus de la forge. La confusion règne, chacun parle. Grand-père raconte, tante gémit, grand-mère crie, Dunia comprend enfin. Le matin, à 6h, les hommes de la Gestapo frappent et hurlent à la porte. Oncle vient de se coucher. Tante ne s'est pas encore assoupie. Elle voulait qu'il fuit. Il préférait rester afin que ce ne soit pas elle qu'on arrête. Il disait, les Allemands n'auront rien à me reprocher. Immédiatement, il l'emmène. Dans chaque maison, les hommes sont pris, rassemblés le long du mur blanc, sur la place. Très vieux et jeunes adolescents, une rangée de 20 hommes, oncle Georges, Marcel et le jeune Joseph sont battus. Interrogés régulièrement, ils doivent avouer où sont cachés les autres résistants, dire où sont entreposés les armes, donner les dates et les lieux des parachutages. Tous trois nient appartenir à la résistance. Alors, un colonel de la Gestapo ordonne de les battre à coups de fouet. Tante sanglote, elle ajoute. Je ne pouvais plus regarder. Je me suis réfugiée ici, dans le grenier, avec maman. Dans l'après-midi, vers 3h, je n'ai plus entendu de cris, alors je suis descendue. Georges, Marcel et Joseph avaient disparu. Sur la chaussée, il y avait une large tache de sang. Sur la place, les 20 hommes attendaient, toujours silencieux, sous le soleil. Georges a été battu plus que les autres. Georges est mort, j'en suis sûre. Non, Thérèse, dit énergiquement grand-mère. Les Allemands préfèrent le garder vivant comme otage. Demain, nous irons aux nouvelles à la commandante Tour. Je vous accompagnerai. Pourquoi ne pas rentrer à la maison, ajoute-t-elle. Grand-mère Eugénie enchaîne. Les Allemands vont revenir et tuer tous les habitants de Saint-Léon. Une voisine appelle. Tante lui fait signe de monter au grenier. Elle affirme qu'il faut quitter le village. Les Allemands ont laissé des obus qui explosent à retardement. Je les ai surpris déposant des bonbons et des sucres empoisonnés dans les tiroirs. Nous devons tous fuir. Tante pense que ce grenier est le meilleur refuge pour la nuit. Père Seguin explique qu'à la dernière guerre, il a vu des colis piégés, des bombes à retardement et qu'il faut être attentif et méfiant à l'égard de tout objet bizarre. Grand-ma tente d'apaiser les esprits, mais un autre voisin entre, porteur de nouvelles alarmantes. Le village est peut-être miné. Alors grand-ma affirme qu'il ne faut pas céder à la panique. Ce ne sont que des rumeurs provoquées par la peur. Elle décide de rentrer au tilleul avec Dunia. Demain, Thérèse, nous irons aux nouvelles. Pourrez-vous trouver un cheval et une charrette? Sinon, nous irons à bicyclette. Je m'en occupe, répond tante en essayant de cacher ses pleurs. Grand-ma et sa petite fille marchent vers leur maison. Dunia pense. Terminé mes promenades solitaires, la nuit. Et puis, à quoi bon? Des braises rougeoient encore au centre de la grange détruite. Le vent porte une odeur d'incendie. Dunia interroge grand-ma. Est-ce vrai? Les bombes à retardement? Des bonbons ou des sucres empoisonnés? Je ne crois pas, ma chérie. Mais ces gens ont eu très peur. L'un invente une menace, l'autre la raconte. Ainsi croît la panique. Ainsi augmente l'effroi. Cette journée a été un choc pour eux, pour tous. Fais-moi confiance, le danger est fini. En revanche, nous devons obtenir des nouvelles de Georges. Si chaque famille décide d'enquêter, nous réussirons peut-être à connaître leur lieu de détention. Nous pourrons les défendre, leur faire parvenir du ravitaillement et des vêtements. Es-tu sûr que Georges ne soit pas mort, grand-ma? Oui, ma Dunia. L'être humain est fort, il résiste plus que l'on ne croit. Georges est robuste. Je crains plus pour Joseph car il n'a que 18 ans. Georges et Marcel sont des hommes mûrs. Ils auront plus d'astuces, plus de résistance pour tenir devant l'ennemi. Joseph est malingre et fragile. Demain, nous saurons. Dunia. Pourquoi n'ont-il pas fui? La fillette s'arrête net. Grand-ma, comme si elle ne l'avait pas entendu, poursuit. J'ai quitté la ville sans prévoir qu'à la campagne, d'autres dangers pouvaient subsister. Que vienne vite la fin de cette guerre. À la maison, tante Alice interroge. Grand-ma raconte. Dunia écoute. Mais grand-ma lui demande d'aller se coucher. Dans le lit, elle pense à Georges, entend encore ses cris et pleure.